À Chicago dans les années 20, à Las Vegas en 45, la pègre prend le pouvoir aux États-Unis. Et dans l'ombre des mafieux, des femmes révolutionnent l'histoire du crime. Après le triomphe de femmes de dictateurs, Diane Ducrêt dévoile l'intimité de ses Lady Scarface. Lady Scarface de Diane Ducrêt, un récit haletant, écrit comme un thriller et riche en révélations. Aux éditions Perrin Plan.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Samouraï, 10 destins incroyables, c'est le titre de l'ouvrage que fait paraître Julien Pelletier aux éditions Prisma. Franck Ferrand reçoit aujourd'hui son auteur. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Le Japon des shoguns nous fait rêver et ce ne sont pas ces 10 histoires extraordinaires de samouraïs recueillies par Julien Pelletier, mises en scène littéralement, qui vont faire retomber nos ardeurs. Pour commencer, je vous propose d'évoquer aujourd'hui l'incroyable figure de Toyotomi Hideyoshi, le Bonaparte japonais.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Marie qui veut en savoir plus sur l'origine des contacts entre l'Europe et le Japon.
Eh bien voilà, nous y filons tout de suite au Japon sur les traces des samouraïs.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
La figure du samouraï est un des symboles de l'extraordinaire et raffinée culture japonaise, devenue un symbole assez familier en Occident dès le 19e siècle et même avant cela encore. Les estampes japonaises, dont certaines sont conservées au musée Guimet, rappelez-vous, nous en parlions l'année dernière, ces estampes qui représentent des samouraïs dans leur tenue traditionnelle, tellement colorées et tellement singulières, des samouraïs en train de combattre généralement, ces estampes influencent de jeunes artistes, je pense à Van Gogh, il y en aurait tellement d'autres. Quand vous vous promenez à Giverny et que vous voyez à quel point les estampes japonaises faisaient partie de l'inspiration de Monet, vous vous dites que cette époque-là a d'une certaine manière été plus japonisante que nous ne le pensons. Plus près de nous, un certain nombre de grands films, et puis les mangas bien entendu, ont popularisé la figure du samouraï auprès du jeune public qui suit les exploits de ces samouraïs. Alors Julien Pelletier, dans Samouraï 10 destins incroyables, nous dit « Le vocable de samouraï, dont la forme primitive apparaît dès le haut Moyen-Âge, recouvre une infinité de trajectoires singulières. Excepté un vague sentiment d'appartenance à la noblesse d'épée japonaise, un monde sépare le simple soldat cheminant à pied chaussé de rustiques sandales de paille, du baron en surcot brodé d'or, toisant la piétaille depuis sa monture caparaçonnée. Paysan ou citadin, miséreux ou richissime, chef de famille ou maître d'une vaste principauté, le spectre social embrassé est des plus larges lorsqu'un individu, à l'exemple de Toyotomi Hideyoshi, ne passe pas lui-même par tous ces stades successifs. Et bien justement, Toyotomi Hideyoshi, le Bonaparte japonais selon l'historien René Grousset, est un des samouraïs importants de cette histoire du Japon, l'un des trois unificateurs du pays pendant la période de trouble. On est au 15e, 16e siècle et pourtant, lui était parti de rien. Pour tout vous dire, on ne sait pas grand-chose de l'enfance et de la jeunesse de Hideyoshi. Les récits sont surtout des légendes. Et évidemment, il faut mettre tout ça en doute. On n'en sait rien, somme toute. Hideyoshi serait né en 1536 dans un village agricole qui s'appelle Nakamura. Vous allez entendre beaucoup de noms japonais pendant cette émission. Je pense qu'en régie, on a fait des paris pour savoir sur combien j'allais trébucher. Vous savez, c'est un peu un parcours d'obstacles aujourd'hui. Donc, il serait né en 1536 à Nakamura, dans la province d'Owari. Une province qui n'existe plus, on est au centre de l'archipel. Le Japon de cette époque compte 66 petites provinces. La légende raconte que notre homme est né en plein hiver. Hiyoshimaru, la récompense du soleil, aurait été enfantée à la suite du rêve prémonitoire de sa mère, au cours duquel l'astre solaire illuminait la chambre. Ce qui est certain, c'est que le garçonnet n'est pas beau, le pauvre. On le compare même à un singe. Hiyoshimaru naît dans une famille de paysans, une famille modeste. Quand il n'y a pas de récolte, son père loue ses services en qualité de fantassin pour le compte d'un clan très puissant, une famille puissante de l'époque, les Oda. Hideyoshi passe une jeunesse difficile. Les villageois se moquent de lui à cause de ce physique un peu ingrat. On le traite de singe. En plus, il est petit, maigre. Enfin bon. Son père meurt alors qu'il n'a qu'une dizaine d'années. Et c'est un enfant qui, pour autant, ne se laisse pas faire. Il est turbulent. Il est tellement turbulent qu'on l'envoie, somme toute, assez vite en pension dans un temple. Il ne devient pas plus calme pour autant. On le voit même casser une idole. Et devant cette profanation, les moines décident de l'exclure et le renvoient dans sa famille. Hideyoshi alors décide de s'enfuir. Sa fugue le conduit auprès d'un cousin qui tente de le placer comme apprenti au service de différents seigneurs. Et sous la tutelle de ce cousin, le jeune homme qui accompagne un ermite, cet homme est un ermite qui vend des talismans, le jeune homme pénètre pour la première fois dans les demeures de ces personnages de haut rang, des grands samouraïs. L'un d'eux le remarque, il s'appelle Totomi, il aime l'esprit vif et malin du garçon et il décide de l'employer comme page. Hideyoshi est alors amoureux de la fille de Totomi, mais cette dernière ne veut pas de lui. D'abord, il n'est pas beau, je vous l'ai dit, et puis il est pauvre. Hideyoshi est très vexé. Il va recevoir une importante somme d'argent pour ses services. Il s'achète une armure et il rejoint sa province natale d'Owari. Il a 20 ans à cette époque-là. Il a bien l'intention de se mettre au service d'un suzerain plus important encore que celui qu'il a jusqu'alors eu l'honneur de servir. En 1558, Hideyoshi décide de participer à une chasse à laquelle est convié Nobunaga, un seigneur de guerre. En japonais, on dit un daimyo. Il appartient justement, ce seigneur, il appartient au clan Oda. Le jeune homme en question est dur, brutal. En vérité, il n'est à peine plus âgé que Hideyoshi. Julien Pelletier nous dit, dans le crépuscule des samouraïs, l'âge d'or des guerriers japonais au tournant du XVIIe siècle, en chemin vers son château de Kiyoshu, Nobunaga croise un singulier personnage sur le bord de la route. Quel visage affreux! Est-ce un nain ou un macaque? Les écuyers du seigneur sont nerveux, ce pourrait être un espion. Les mouchards pullulent en ces temps incertains. C'est à peine si le gringalet pourrait soutenir le poids d'une lance. Pourtant, le petit homme intrigue Nobunaga. Il y a quelque chose de puissant qui luit au fond de ses yeux, une résolution sans faille. Il décide finalement de faire de Hideyoshi son porteur de sandales. Ah oui, c'est ce qui s'appelle commencer modestement, la fonction est ingrate. Sauf que désormais, celui qu'on surnomme toujours le singe est au plus près de ce modèle des samouraïs.
La bande originale du film dont on vous a parlé cette semaine à l'occasion des grands films primés au Festival de Cannes, Kagemusha, l'ombre du guerrier, l'histoire des samouraïs, c'est à suivre cet après-midi sur Europe 1 avec Franck Ferrand.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous dressez le portrait de Toyotomi Hideyoshi, le Bonaparte japonais qui a seulement 20 ans, en devenant porteur de sandales, voilà, s'est approché au plus près des samouraïs.
Exactement, et ce Hideyoshi est donc entré au service du seigneur Oda Nobunaga. Il gravit tous les échelons en quelques années. Alors il a mûri, bien entendu, il devient un homme et il devient quasiment un stratège. Et on verra à quel point il portera, à quel degré il portera plus tard l'art de la stratégie. En ces temps où une guerre entre clans peut éclater à n'importe quel moment, c'est évidemment une qualité essentielle. Pour soumettre les clans, il n'a pas besoin d'utiliser sa force puisqu'il, généralement, sa ruse suffit. Par exemple, en 1562, il fait fabriquer un fortin en amont d'un îlot sur lequel il compte prendre pied. En quelques jours, ces hommes assemblent un poste avancé sur la petite île située au milieu du fleuve et qui commande l'accès au bastion d'un ennemi, le grand seigneur d'une famille puissante. Hideyoshi décide de se présenter seul et désarmé devant le château de l'un des gentilshommes du fameux seigneur. Alors le bonhomme en question est tout à fait surpris, bien entendu. Il reçoit le singe, comme on continue de l'appeler. Il se range à ses arguments en faveur de Nobunaga, le seigneur doit se soumettre. Julien Pelletier nous dit « Nobunaga et Hideyoshi se ressemblent. Ils ne sont pas les esclaves d'un code de chevalerie obsolète. Ils vivent avec leur temps, écrivent leurs propres règles du jeu et tirent leur force de cette capacité à remettre en question les dogmes inculqués aux samouraïs. » Hideyoshi va devenir général de plein droit. Il participe à toutes les grandes victoires des années suivantes. La bataille de la rivière Hanai, où combattent 50 000 hommes en 1570. La bataille de Nagashino, 5 ans plus tard. Une bataille de plusieurs heures contre le très puissant clan Takeda, dont la chute est justement racontée dans Kagemusha. Toutes ces victoires de Oda Nobunaga donnent lieu à des réjouissances. On récompense constamment Hideyoshi, bien entendu. Il va recevoir en présent une forteresse. Il devient même le père adoptif d'un des petits-fils d'Oda Nobunaga. Puis Hideyoshi obtient, on est là au tournant de la décennie 1580, le commandement des forces chargées d'étendre le territoire de Nobunaga vers l'ouest de l'archipel. La région est occupée par un autre clan, bien entendu le clan Mori, un adversaire de taille que Hideyoshi affronte avec ses seules troupes. Il n'est plus question maintenant d'être un des généraux de son ancien patron. Hein. Il va diriger lui-même son armée, enfin si l'on peut dire. Il apprend que des renforts envoyés par les Mori arrivent sur le front. Il réclame à ce moment-là des troupes. Nobunaga accepte. Il envoie son contingent personnel, une colonne dont le capitaine s'appelle Mitsuhide. Mais au lieu de marcher vers l'ennemi, Mitsuhide et ses 10 000 hommes se soulèvent contre leur suzerain alors que Nobunaga est à Kyoto. Kyoto, la capitale impériale, il est à la tête d'une poignée d'hommes. Oda Nobunaga est blessé, il est cerné dans son temple et il va finir par commettre le seppuku. Vous savez, il va se suicider en s'ouvrant le ventre. Prévenu de ce coup d'État grâce à l'interception opportune d'un courrier expédié par le traître Mitsuhide, qui espère négocier avec les Mori, Hideyoshi signe une trêve qui a été un petit peu improvisée, il faut bien le dire. Il fait ensuite volte-face, il entame une marche forcée en direction de Kyoto et en 4 jours, son armée est là. Elle arrive devant la colline de Yamazaki, donc au sud de Kyoto. En chemin, Hideyoshi sème le trouble chez les capitaines susceptibles de prendre le parti de Mitsuhide. Il fait courir une rumeur selon laquelle Nobunaga, en vérité, ne se serait pas suicidé. Il ne serait pas mort, il serait là encore, prêt à se venger. Et bientôt, les colonnes ennemies se portent à sa rencontre. Entre-temps, de nombreux renforts sont arrivés pour épauler Hideyoshi et ses hommes. Les guerriers de Mitsuhide vont être balayés, Mitsuhide lui-même s'enfuit, des paysans le rattrapent, le tuent, lui tranchent la tête, déposée par Hideyoshi sur la sépulture de Nobunaga comme une sorte de trophée posthume. Le geste n'est pas anodin. À plus de 45 ans, il endosse en effet l'habit de candidat légitime à la succession de celui qu'il avait servi pendant presque 25 ans et que maintenant il a vengé. Certaines personnes, évidemment, ne sont pas du tout d'accord. Lors de la conférence de Kyoshu, les héritiers de la puissante maison Oda se retirent, mais des rivaux plus coriaces ne comptent pas se laisser faire et ils ont bien l'intention de s'opposer à notre héros. Le plus dangereux, c'est un général quinquagénaire du nom de Shibata Katsuye. Après une bataille sur la cime d'une montagne, ce qui change des plaines où les samouraïs d'habitude se battent, les hommes de Hideyoshi arrivent à un nid d'aigle enneigé qui s'appelle Kitanosho. Shibata Katsuye est perdu, il comprend bien qu'il ne tiendra pas. Et lui aussi va pratiquer le seppuku, donc il se suicide. On ne plaisante pas dans ce Japon ancien. Lorsqu'on n'est pas à la hauteur, on se supprime soi-même. Hideyoshi, désormais, est doté des pleins pouvoirs. Il devient régent, il obtient le patronyme de Toyotomi, le ministre munificent, mais sa soif de domination ne s'épanche pas aussi facilement, elle ne va pas s'arrêter là. Son intention maintenant, c'est d'unifier ce Japon dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il était entièrement morcelé. Comme il le fait depuis plusieurs années, Hideyoshi ne privilégie pas les armes. C'est un homme de stratégie, je vous l'ai dit. Il va préférer la diplomatie, d'une certaine manière, la politique de la main tendue. Des seigneurs de guerre peuvent sauver la face, éviter la destruction de leur lignage, même si, dans certains cas, il n'y a pas moyen d'éviter le combat, bien entendu. Mais enfin, une grande partie d'entre eux vont se soumettre sans coup férir. En août 1590, après le long siège d'Odawara dans le sud-est de l'archipel, la dernière famille qui n'avait pas prêté allégeance à Hideyoshi, les Hōjō, vont capituler. Après un siècle de chaos, on peut donc dire que le Japon est unifié, et ça, c'est grâce à Hideyoshi qui maintenant savoure son triomphe. À la différence de Nobunaga, son terrible devancier aux penchants autoritaires, nous dit Julien Pelletier, le nouveau maître du pays conçoit l'exercice du pouvoir comme un équilibre subtil entre usage de la diplomatie et recours à la force. Prenant acte de l'impossibilité de se voir décerner le titre de shogun du fait de ses trop modestes origines, Hideyoshi compose et substitue au pouvoir absolu rêvé par Nobunaga un certain degré de gouvernance fédérale.
Si vous aussi le monde des samouraïs vous intrigue ou vous passionne, vous pouvez réagir à cette émission, poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag ACDH et bien sûr la page Facebook au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous continuons de découvrir Toyotomi Hideyoshi. Vous dressez son portrait. Alors ça y est, il est devenu tout puissant. C'est lui qui a unifié le Japon.
Exactement. On est en 1590 et en effet, Hideyoshi est l'homme fort du Japon. Il a réussi à l'unifier. Il est couvert de titres de noblesse délivrés par la cour impériale. Il est devenu régent. Il a lancé la chasse au sabre pour pacifier le pays. Le but, c'est de désarmer les populations, en tout cas dans toute la mesure du possible. La capitale, Kyoto, est reconstruite, notamment les temples, les monastères. Bref, c'est une période c'est une période faste, hein, disons-le. Hideyoshi veut aussi changer le statut des samouraïs. Il souhaite qu'ils ne soient plus seulement des guerriers indépendants, mais que désormais, ils s'attachent au service du seigneur auprès duquel ils séjournent. Hideyoshi intervient, disons-le, dans tous les domaines. Vous comprenez mieux pourquoi on l'appelle le Bonaparte japonais. Hein. C'est un homme qui est aussi bien un administrateur qu'un guerrier. C'est un chef de famille, certes, mais c'est aussi, d'une façon plus générale, un stratège, un politique. C'est un grand personnage. Certains qualifient le régime qu'il est en train de mettre en place d'un système de sceau rouge, car c'est vrai que de très nombreuses lettres et de très nombreux documents sont frappés de son sceau. À titre personnel, Hideyoshi devient extrêmement riche. Il va faire bâtir un château à Osaka, qui est probablement la plus vaste citadelle du monde à cette époque, avec des remparts qui s'élèvent jusqu'à 22 mètres. C'est très spectaculaire. Les palais de Hideyoshi, dit-on, sont recouverts d'or. Il y a de l'or partout, hein, sur les sols, sur le mobilier, etc. L'orphelin misérable, à la face ridée, raconte Julien Pelletier, se drape dans les brocarts d'or et la soie vermillon. Devenu richissime, le singe se frotte aux arts. Il se prête au jeu des représentations théâtrales, se livre avec enthousiasme à de fastueuses cérémonies du thé célébrées en grande pompe et qui réunissent aux côtés de citadins amusés la fine fleur des pères de l'Empire. Quelle extraordinaire ascension, quelle réussite sans exemple. Mais Hideyoshi voit maintenant plus grand que l'archipel. C'est un peu le problème de tous les Bonapartes du monde, vous savez, c'est que une fois qu'ils ont atteint une sorte de perfection dans le gouvernement, eh bien, ils veulent constamment davantage. Là, son but maintenant, à lui, c'est d'envahir la Chine. C'est une volonté d'expansion qui, bien sûr, finira par signer sa perte. En 1592, est donc menée la première campagne de Corée. Si le pays se soumet, ça veut dire que la route est ouverte vers la Chine. Les 160 000 hommes de Hideyoshi ne feront qu'une bouchée de l'armée régulière coréenne. Seulement, les opérations navales tournent à la catastrophe. L'immense vaisseau tortue coréen fait des ravages. Il faut expliquer ce que c'est. Ce vaisseau, son pont est couvert d'un toit hérissé de pics d'acier, ce qui empêche tout abordage. Le bâtiment a des canons de chaque côté et à la poupe, un dragon de métal qui dégage des flammes brûlantes. Les Coréens, encore pire que ça, vont pratiquer sur Terre la politique de la Terre brûlée. Les représailles des samouraïs sont évidemment sanglantes. Et bientôt, les Chinois, qui n'ont pas l'intention de se laisser manger tout cru, entrent dans le conflit. Ils vont repousser les forces nippones bloquées par l'hiver coréen, ce qui est évidemment une sorte de préfiguration de ce qu'on connaîtra avec l'invasion de la Russie par Napoléon beaucoup plus tard. À ce moment, Hideyoshi, qui a plus de 50 ans et qui ne peut que constater l'échec de la campagne de Corée, Hideyoshi sent que le sol se dérobe sous ses pas. Il est désormais régent retiré. Sa préoccupation presque obsessionnelle, c'est d'avoir un héritier. Et l'on est en train de voir son comportement chavirer. Il est en train de devenir paranoïaque. Comme sa femme est stérile, sa concubine, qui s'appelle Chacha, lui a donné un fils, mais il meurt en 1591. Il va avoir un deuxième fils, Hideyori, en 1593. Mais il a tellement peur que l'on exécute ce fils, il a tellement peur de perdre sa descendance, qu'il va lui-même faire exécuter son neveu. Il devient extrêmement violent, notamment à l'égard des chrétiens à l'époque, les jésuites, les franciscains, etc. Il se montre agressif envers les autres seigneurs. Comment va finir ce Hideyoshi qui, en quelque sorte, a été complètement grisé par cette soif de pouvoir? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec mon invité. Bonjour Julien Pelletier.
Bonjour Franck Ferrand.
Je suis ravi que vous vous appeliez Julien Pelletier parce que c'est enfin un nom prononçable dans cette émission.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous proposez une émission consacrée à ces hommes de la classe guerrière qui a dirigé le Japon féodal pendant 700 ans, les fameux samouraïs, mais avec votre invité Julien Pelletier, spécialiste du Japon médiéval et auteur de Samouraïs, 10 destins incroyables, paru chez Prisma.
Alors nous parlions pour commencer de Toyotomi Hideyoshi, personnage qui a finalement sombré dans les dernières années de sa vie dans une forme de paranoïa aiguë. Il devenait difficile à approcher, extrêmement violent, d'une cruauté incroyable envers les chrétiens, allant jusqu'à des massacres et des crucifixions. Il va, obsédé qu'il est d'étendre son pouvoir, se rattaquer à la Corée lors d'une seconde campagne, qui va être aussi désastreuse que la première, mais encore bien plus cruelle, en fait, Julien Pelletier.
Oui, la seconde campagne de Corée est beaucoup plus cruelle. Elle est vraiment, elle a pour motif, c'est une expédition punitive. En fait, les tractations avec le trône impérial de Chine ne débouchent pas du tout sur l'issue attendue par Hideyoshi, qui se sent humilié en fait par ces négociations, en particulier par le titre de roi du Japon qui lui est décerné par l'empereur de Chine et qui donc ferait de lui dans l'absolu son subalterne, oui. Alors qu'il entendait bien le soumettre au contraire à sa volonté. Et donc furieux, il ordonne une nouvelle expédition en Corée, qui cette fois a pour vocation de châtier vraiment ce pays.
C'est une expédition punitive en fait, c'est assez lamentable tout ça. Il tombe malade, notre Hideyoshi, là, il devient, il est vraiment très malade, à l'été 1598. Donc, vous écrivez, sous les charpentes en bois précieux du château de Fushimi, derrière les paravents dorés ornés de paysages et d'oiseaux merveilleux, l'architecte de la réunification du pays agonise. Au dehors, les érables se dévêtent de leur tunique pourpre, cette couleur que Hideyoshi affectionne tant. Au chevet du maître du Japon se pressent les pères de l'Empire, la mine grave. C'est à qui prêtera le serment de loyauté éternelle le plus grandiloquent à la maison Toyotomi. Terrassé par la dysenterie, ni les remèdes alambiqués des médecins, ni la viande de tigre expédiée exprès de Corée ne parviendront à apaiser Hideyoshi. C'est assez étonnant de voir à quel point l'extrême raffinement des décors et de cette civilisation japonaise entoure un personnage qui, lui, est un guerrier sans limite, quasiment lui-même un tigre assoiffé de sang.
C'est un guerrier, mais c'est aussi un esthète. Hein. On l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui effectivement se passionne vers la fin de sa vie pour le théâtre. Il commissionne des pièces racontant sa vie, donc en tout cas son enfance et son début de carrière, avec de manière extrêmement romancée. Hein. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une sorte de communication politique avant l'heure, destinée bien sûr à asseoir sa légitimité. Et c'est évidemment un sujet qui lui tient beaucoup à cœur, hein, du fait de ses humbles origines. Il a beaucoup beaucoup de mal à justifier ses prétentions au pouvoir suprême, et partant il va faire beaucoup d'efforts pour asseoir cette légitimité auprès de l'empereur, auprès des grands du royaume, auprès de tous.
À sa mort, il a donc unifié le Japon. Est-ce que c'est la première fois que le pays est unifié sous une seule bannière, d'une certaine manière?
Non, ça n'est pas la première fois. Le pays retrouve en fait une unité. Il avait au Moyen-Âge et dans la période antique déjà été unifié, mais disons que désormais le pays met un pied dans l'époque moderne, et c'est vraiment Hideyoshi qui sera l'architecte de cette première étape.
C'est une forme de renaissance.
Absolument,
sorte,
tout à fait.
Qui naît avec lui. Quelle différence peut-on faire avec son maître, son ancien maître Nobunaga, justement? Est-ce qu'il aura eu un esprit plus politique que Nobunaga?
Oui. D'ailleurs, Nobunaga manque à tel point d'esprit politique qu'il y perdra la vie.
Hein. Oui,
il est trahi par l'un de ses lieutenants.
Lui n'est que force, en fait.
Exactement, lui n'est que force. Il a beaucoup plus de mal à percevoir les rapports de force et les changements d'humeur de ses propres hommes. En revanche, Hideyoshi, lui, est un homme extrêmement subtil, hein, le singe aussi au sens de la ruse qu'il emploie.
On a toujours du Japon ancien l'image d'un pays très fermé. En l'occurrence, c'est un pays en pleine expansion que nous venons de découvrir, et qui a de fortes velléités coloniales sur la Corée, la Chine, etc. Quelle est la nature profonde de la culture japonaise? C'est un pays colonialiste, le Japon?
Alors c'est un pays insulaire, avec les caractéristiques qu'on voudra bien lui prêter. Mais la culture traditionnelle japonaise est d'importation chinoise. Hein. Elle vient de la dynastie Tang, qui est une dynastie chinoise très importante, qui avait régné donc entre les 6 et 9e siècles, et qui va donc servir de modèle à la construction de la civilisation japonaise antique.
Qui donc est un surgeon de cette ancienne civilisation Tang.
Exactement.
Et qui va se raffiner à l'infini, il faut dire, dans le contexte insulaire.
Tout à fait, ouais. Ensuite, le Japon va progressivement s'émanciper, hein, encore une fois, du fait de sa nature insulaire et de son éloignement du centre de gravité de cet empire du milieu, hein, qui porte bien son nom, et va suivre son chemin propre. Les premières tentatives coloniales d'expansion coloniale japonaise sont vraiment celles conduites par Hideyoshi. Hein. Auparavant, on a effectivement des échanges assez importants, notamment sous la dynastie shogunale des Ashikaga, hein, qui est arrivée à son terme peu après l'avènement de Toyotomi Hideyoshi. Et puis ensuite, à partir de 1645, viendra le Sakoku, c'est-à-dire la politique de fermeture du pays, qui va durer quasiment 2 siècles.
Et donc ça, c'est plus tard.
C'est plus tard. À l'époque de Hideyoshi, les échanges sont importants, à la fois avec l'Asie continentale et aussi avec le reste du monde, en particulier avec l'Europe.
Est-ce que Hideyoshi est un samouraï emblématique pour vous? Il est né quand même dans un milieu tout à fait simple. Il a vécu une extraordinaire ascension sociale. Il s'est mis au service d'un seigneur qu'il a dépassé lui-même, et puis ensuite il devient en quelque sorte le fer de lance de l'empire. C'est un samouraï emblématique, ou est-ce que c'est un destin très différent des autres?
C'est un destin vraiment unique, hein. C'est un destin vraiment à part, et en même temps, il est vraiment la quintessence de ce qu'on appelle le Gekokujo, c'est-à-dire un terme difficilement traduisible,
mais qu'on n'avait pas encore entendu depuis le début.
qu'on pourrait traduire par le subalterne renverse son supérieur. L'idée, c'est évidemment de définir ce qu'on appellerait de nos jours l'ascenseur social, et qui fonctionne à plein à l'époque, Hideyoshi en fournissant le parfait exemple, puisqu'il est effectivement fils d'un fantassin occasionnel, un fermier, et qui va se hisser au pinacle.
Oui. Alors ce samouraï, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire samouraï, peut-être? Il faut peut-être expliquer ça.
Le samouraï, étymologiquement, c'est celui qui sert. Et qui sert-il? Il sert les nobles de la cour. L'aristocratie, dans un premier temps et pendant longtemps au Japon, l'aristocratie est d'abord celle de la cour impériale. La noblesse d'épée est plutôt mal considérée dans un premier temps, et constituée essentiellement de serviteurs, une sorte de métayers en chef qui assurent la sécurité des domaines, alors que les gouverneurs sont eux tous à la capitale. Et c'est samouraïs vont progressivement se rendre compte que celui qui exerce le pouvoir militaire peut aussi exercer un pouvoir politique, commencer à s'immiscer dans les affaires politiques de la cour, se rendre indispensable jusqu'à intervenir et prendre le pouvoir eux-mêmes.
Ces samouraïs, on les trouve de quel siècle à quel siècle ? Comment les situer dans le temps ?
Alors les premiers grands chefs samouraïs commencent à se distinguer au cours du Xe siècle. Il faut attendre la fin du XIIe siècle pour qu'ils établissent vraiment leur autorité sur le pays avec l'avènement du régime de Kamakura. Hein, Kamakura qui est une ville située non loin de Tokyo, et on voit déjà justement ce rapport de force entre le Kanto, donc la plaine environnant Tokyo, et le Kinai, qui est la zone agricole entourant l'agglomération de Kyoto.
Quel est le premier samouraï, en tout cas celui que vous avez mis en exergue, vous ?
J'ai parlé de Yoshitsune, qui n'est pas du tout le premier samouraï, mais qui est plutôt le premier à entrer vraiment dans les chroniques et à laisser une trace indélébile dans l'histoire du Japon. C'est un petit peu une figure qu'on pourrait envoyer si on compare cette histoire, la guerre des Genpei, à l'Iliade, hein, comme on peut le faire souvent. C'est une sorte d'Achille japonais, si vous voulez.
Et voilà. Et c'est intéressant d'ailleurs de faire cette comparaison, parce qu'on voit qu'une partie de l'histoire de ces samouraïs demeure légendaire quand même. Hein. Il ne s'agit pas que d'histoire dans cette affaire, il y a aussi une part de légende.
Oui, c'est bien sûr, encore une fois, très très compliqué de distinguer dans cet écheveau de mythes quelle est la part de la réalité. C'est tout particulièrement vrai pour la période du haut Moyen-Âge, hein, où les récits font foi et ont tellement évolué au fil des temps qu'hélas, on est bien en peine de distinguer le bon grain de l'ivraie.
Nous allons dans un instant évoquer d'autres destins de samouraïs, et puis nous essaierons de voir, de comprendre ce qui fait le système de valeurs des samouraïs. Est-ce qu'on peut les comparer à nos chevaliers occidentaux ? C'est une question qui me titille et vous allez voir que c'est plus complexe que ça.
Marion Ruggieri, il n'y en a pas deux comme elle, c'est tout à l'heure, dès 15h sur Europe 1.
45% des femmes misent sur le sourire pour séduire, alors que 70% des hommes regardent en premier les yeux d'une femme. Alors comment les femmes d'aujourd'hui draguent-elles ? C'est la question que se pose Marion Ruggieri à partir de 15h et jusqu'à 16h sur Europe 1. Pour réagir dès maintenant, ça se passe sur Twitter avec le hashtag P2CE.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Un extrait de l'opéra italien Madame Butterfly avec la voix de Maria Callas sur Europe 1. Nous sommes au Japon, au cœur de l'histoire des samouraïs, avec votre invité Franck Ferrand, Julien Pelletier, spécialiste du Japon médiéval, auteur de Samouraï, 10 destins incroyables, paru chez Prisma. Une émission qui fait beaucoup réagir les auditeurs d'Europe 1.
Oui, les auditeurs plus que les auditrices, j'ai l'impression. De ce Japon des samouraïs a quelque chose de martial, que voulez-vous. Beaucoup d'auditeurs nous disent merci. Ataël dit, Monsieur Ferrand, Domo arigato gozaimasu, ce qui veut dire
je vous remercie beaucoup.
Et bien voilà. Et Frédéric Lenormand, un auteur que connaissent bien les amateurs et les amoureux d'Extrême-Orient, nous dit qu'il a suivi vos aventures sur votre blog pendant notamment vos 6 mois en Asie, notamment en Mongolie. C'était extra, nous dit-il. Alors, certains auditeurs posent des questions. Marc nous dit, que reste-t-il de cette culture des samouraïs dans le Japon d'aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont plus que nos mousquetaires, demande-t-il ?
Ah oui, ils sont beaucoup plus que nos mousquetaires, parce que cette figure est constamment invoquée, hein, sous toutes ses formes, récemment encore pour vanter les mérites d'une célèbre marque de soda américaine. Donc cette figure, elle est quand même très importante. Elle est toujours instrumentalisée aussi, parce qu'elle sert le soft power, c'est-à-dire la diffusion de la culture populaire japonaise. On la retrouve dans les mangas, on la retrouve dans les jeux vidéo, on la retrouve au cinéma, on la retrouve un petit peu partout, et elle est même parfois invoquée pour expliquer la réussite économique japonaise. On a parlé donc du Bushido au sein des entreprises, et qui avait conditionné les jeunes cadres japonais à être des guerriers conquérants et disciplinés, bien sûr.
Alors, plutôt que l'image des mousquetaires, c'est celle des chevaliers qui nous vient à l'esprit. Y a-t-il un code de l'honneur du samouraï, de la même façon qu'il y avait un code de la chevalerie occidentale ?
Il y a bien un code d'honneur, c'est le fameux Bushido, donc la voie du guerrier, qui, contrairement à ce qu'on imagine souvent, ne va se codifier paradoxalement qu'avec le retour à la paix. On a auparavant tout un corpus de valeurs qui sont véhiculées, mais qui peuvent varier considérablement d'un clan à l'autre. On parle plutôt d'ailleurs à l'époque de voie de l'arc et du cheval. Le samouraï emblématique est plutôt un cavalier archer et non pas un escrimeur, comme on l'imagine très souvent. Ça, c'est une image, encore une fois, plutôt récente, qui date de la période Edo, donc qui commence après la chute de Hideyoshi et de la maison Toyotomi. Et donc ce Bushido, c'est seulement avec le retour de la paix civile qu'il va se codifier, qu'il va se former en subissant diverses influences, à la fois celles des valeurs chevaleresques dont on a parlé, donc obéissance, loyauté absolue, pratique martiale naturellement, et puis aussi il va se matiner d'influences philosophiques, en particulier celle du néo-confucianisme, qui est une idéologie, une philosophie en vogue, que le nouveau pouvoir des Tokugawa, donc les successeurs des Hideyoshi, va utiliser pour instaurer un ordre social extrêmement rigide et codifié.
J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez l'occasion de prendre des notes, parce que il va falloir s'y repérer, hein, évidemment, dans tous ces termes qui pour nous sont tellement exotiques, mais ça fait partie de la poésie. Mais non, mais au contraire, ça fait partie de la poésie. Vous savez, j'ai la chance de fréquenter beaucoup une maison dont tout le vestibule est orné de ces extraordinaires armures de samouraïs, et je crois qu'il n'y a rien qui puisse faire autant rêver que cela, parce qu'on est dans un monde très différent du nôtre quand même. Comment les expliquer d'ailleurs, ces armures tellement somptueuses, tellement inspirées. Elles sont vraiment, on dirait, des costumes de théâtre d'une certaine manière.
Oui, elles ont naturellement vocation à terrifier l'ennemi, à repérer aussi les champions ou les généraux sur le champ de bataille. C'est le cas notamment de ce qu'on appelle les kawari kabuto, c'est-à-dire les casques ornés, les casques fantasmagoriques extravagants,
qui sont sculptés, brillants, avec des couleurs aussi,
des crustacés, des couleurs, des cornes de toutes sortes.
C'est très très spectaculaire. Quel était, nous demande Hubert via Twitter, le rôle de l'empereur? Notre auditeur voudrait savoir s'il avait autre chose qu'un rôle représentatif.
Justement,
ça dépend de quelle époque on parle peut-être déjà.
En effet, alors l'empereur va jouer dans un véritable rôle de premier plan politique pendant toute la période antique et le tout début de la période médiévale, et c'est précisément les samouraïs qui vont le déposer, en tout cas qui vont leur chef suprême, c'est-à-dire le shogun, le généralissime, le chef de la caste des samouraïs, qui va progressivement le dépouiller de toutes ses prérogatives politiques jusqu'à l'enfermer dans un rôle purement sacerdotal. Ça n'est pas un processus qui prend la forme d'un coup d'État, c'est un processus long qui va s'étaler sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, jusqu'à parvenir au pouvoir vraiment suprême des shoguns. Là, ce sera celui des Tokugawa, qui sont les successeurs des Toyotomi dont nous avons parlé.
Alors voilà, nous avons justement mis l'accent sur Toyotomi Hideyoshi, le fondateur de cette lignée. Quels sont les autres grands samouraïs dont il faut absolument citer le nom? Est-ce qu'il y en a un qui serait plus emblématique, plus représentatif que les autres? Vous me parliez d'un samouraï dont la statue se trouvait devant l'entrée même du palais, en fait.
Oui, c'est la statue de Kusunoki à Tokyo. Oui. C'est la statue de Kusunoki Masashige, qui est souvent présentée comme le samouraï idéal, le parangon de toutes les vertus. C'est-à-dire la raison pour laquelle on a érigé une statue à son effigie. Et il est paré de toutes les vertus, ce samouraï, pour une raison simple, c'est qu'il s'est donné la mort, ce qui est toujours considéré comme une fin tout à fait honorable, bien sûr, pour un samouraï, la fin idéale, à défaut de la victoire au champ d'honneur. Et puis il s'est donné la mort au service de l'empereur. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est glorifié. À partir de la fin du 19e, les samouraïs ayant servi l'empereur, les rares figures de samouraïs au service de l'empereur deviennent vraiment les modèles à suivre.
J'ai employé tout à l'heure de plusieurs reprises le terme de seppuku. On n'emploie pas celui de harakiri pour parler de de ce suicide rituel?
La version classique est plutôt le terme de seppuku, en effet, qui fait référence à une prononciation chinoise. Le chinois étant au Japon médiéval ce que le latin a pu être pour l'Europe médiévale.
Et harakiri, ça vient d'où alors? Qu'est-ce que c'est?
Ce sont les mêmes idéogrammes, en fait, mais prononcés...
Différemment, oui, en effet. Oui. Très différemment. Il y a un samouraï plus faillible, plus vulnérable d'une certaine manière et qui fait penser à notre Don Quichotte, c'est Miyamoto Musashi, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, Miyamoto Musashi, oui, tout à fait.
Et celui-ci, alors, c'est un, comment pourrait-on dire, c'est un personnage un peu moins idéalisé que ceux dont nous avons parlé jusqu'alors.
Idéalisé par la tradition, hein, sous la plume de Yoshikawa Eiji, hein, qui va faire de ce personnage un héros très cher au cœur des Japonais, hein, dans son célèbre roman La plume et le sabre. En tout cas, traduit sous ce titre en français, qui est un énorme succès populaire. Ce sera le livre le plus vendu au Japon. Et c'est lui qui va donc réhabiliter cette figure, qui avait toujours bénéficié d'une certaine popularité, mais qui va vraiment exploser et être l'ambassadeur, hein, du Japon à travers cette figure du samouraï, à travers le monde. Et ce personnage, c'est celui plutôt du chevalier errant, redresseur de tort, là, cette fois, dépourvu d'une armure, mais qui marche tout simplement sur les sentiers de l'archipel, en quête de la voie du samouraï et de la perfection.
Je revoyais l'autre soir le très beau film Le Dernier Samouraï. Qui a été vraiment le dernier samouraï dans cette histoire japonaise?
Alors, le portrait fait dans le film s'inspire d'un personnage français, le capitaine Jules Brunet, hein, dont le parcours serait intéressant. Mais celui qu'on désigne le plus souvent sous le terme de dernier samouraï et qui a inspiré donc l'un des personnages du film également, c'est Saigo Takamori, qui est en fait... D'abord l'artisan du retour de l'empereur au pouvoir. Là, nous sommes à la restauration, à la période dite de la restauration Meiji, hein, c'est-à-dire à la fin dans les années 1860-1870. L'empereur, sous l'impulsion donc d'une rébellion conduite par des chefs samouraïs, retrouve enfin le pouvoir. Mais ces samouraïs sont par la suite assez déçus du traitement qui leur est réservé. Ils perdent leurs prérogatives, ils perdent notamment le droit de porter le sabre, de porter le chignon, leur coiffure distinctive. Ils sont ruinés par la conversion de leur rente en obligation d'État, et un soulèvement se produit, un certain nombre d'ailleurs de soulèvements se produisent à travers tout l'archipel, dont le dernier sera la révolte de Kagoshima, conduite par Saigo Takamori.
Et que le cinéma l'a encore immortalisé.
Exactement.
Merci beaucoup Julien Pelletier. Le crépuscule des samouraïs, l'âge d'or des guerriers japonais au tournant du XVIIe siècle, c'est aux éditions Economica. Et puis, nous sommes beaucoup inspirés d'un des grands chapitres de votre Samouraï dit destin incroyable, c'est aux éditions Prisma. Merci beaucoup.
Dans un instant, Franck Ferrand revient sur l'origine des relations entre la France et le Japon.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Alors aujourd'hui, pour vous Franck, et c'est une question qui va avec le sujet du jour, elle est signée Marie, une question posée sur Europe 1.fr, de quand date le premier contact entre l'Europe et le Japon et comment cela s'est-il passé?
Alors entre l'Europe et le Japon, ça se passe en 1542, ce sont des Portugais, vous savez, qui voyageant vers Macao vont échouer sur les côtes du pays du soleil levant. Alors comme nous l'avons dit, à la fin du XVIe siècle, des missions franciscaines et jésuites sont menées par des Espagnols et des Portugais. Dans la foulée, ce sont surtout les Hollandais parmi les Occidentaux qui seront admis à résider au Japon et à y faire commerce via la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Dans l'autre sens, sachez qu'en 1615, un samouraï envoyé vers Rome en tant qu'ambassadeur va faire en France une escale imprévue à Saint-Tropez. C'est un accident de parcours qui va donner l'occasion aux Japonais de mettre un premier pied en France. Ce sera le tout premier vrai contact entre les deux nations. Louis XIV tentera de nouer des relations officielles et commerciales avec le Japon, mais ses envoyés n'arriveront jamais à destination et pour cause. À partir de 1636, c'est cette période dont nous parlions tout à l'heure, du Sakoku, littéralement la fermeture du pays, hein, pendant 200 ans. Il faudra attendre le milieu du 19e siècle pour que tout ça s'ouvre un peu. En 1858, la France et le Japon, donc sous l'égide de Napoléon III, vont signer un traité de paix, d'amitié et de commerce. On est juste avant l'ère Meiji qui elle-même rayonnera jusqu'en 1912. Et je disais tout ça sous contrôle de Julien Pelletier. Bonjour Marion Ruggieri.
Bonjour Franck. Comment draguent les femmes aujourd'hui, cher Franck? C'est la question qu'on se pose jusqu'à 16h, à l'occasion de la parution d'un petit livre rouge, pas celui qu'on connaît, un petit livre français qui s'est déjà vendu dans le monde entier et qui répond à toutes les questions que les filles se posent, Franck. Comment s'habiller pour un premier rendez-vous, pour une première nuit? Et s'il ne rappelle pas? Et si ça dure? Et si j'ai envie de le tromper? Et s'il pense que Lévi-Strauss est un jean?
Et maintenant, ce sont les filles qui draguent. Vous bousculez tous mes repères, Marion. Nous nous disons à lundi, chère Anissa. Et puis, dès demain, pour évidemment un grand portrait d'Au cœur de l'histoire.
Exactement, demain, à partir de 14h, c'était Franck Ferrand sur Europe 1. Très bel après-midi à tous. Il est 15h.